Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La retraite à point. Alors, non, pas la retraite à point.
Si t'es pas content, si tu trouves que le législateur, c'est tous des bandes d'enculés, de politiciens véreux, bah t'en changes. Soit par la révolution, soit par la loi, soit par la, les votes, mais t'en changes. Tu peux pas rester uniquement à la protestation. Sinon, c'est vaincu d'avance, hein, quelle que soit la violence des manifestants. Donc il faut qu'il y ait un débouché politique, que la revendication sociale, fiscale des gens est un aboutissement politique. Donc il faut qu'ils s'en occupent. On peut bien sûr pendre au premier arbre, à la première lanterne venue, les patrons, les chefs faillons, les contremaîtres, les exploiteurs, les buveurs de sueur, etc. Et quoi après? C'est pas ça une révolution. La révolution, c'est quand le peuple prend le pouvoir. Pour lui, faites de la politique, de façon à contrôler la violence. Pour vous, contre les patrons et les capitalistes. Ça s'appelle la révolution.
Assez, assez de ce gouvernement qui rançonne les smicards pour aider les richards.
Salut les amis, et la révolte contre la casse volontaire du système des retraites continue en ce mois de février 2020. Et au-delà d'une fronde contre la retraite à points, les gens sont insurgés contre la casse volontaire de toute la société. Casse au profit de quelques capitalistes qui veulent privatiser ce qui nous reste encore de bien commun. On en parle à nouveau aujourd'hui avec les copains profs d'histoire géo, André, Daniel et Cédric, autour de quelques articles du Monde diplomatique. Et on terminera l'émission avec la perfide chronique sur les médias de Philippe Arnaud, qui nous fera à nouveau remarquer à quel point les médias supposés de service public que vous payez avec vos impôts non seulement ne parlent pas du mouvement social contre la retraite à point, ou alors pour nous en dire les habituelles conneries de prise d'otage qui d'ailleurs ne prennent plus dans l'opinion, mais nos médias financés par l'argent public se permettent de déverser de la crypto-propagande anti-républicaine. On verra ça tout à l'heure avec Philippe, mais tout de suite, on ouvre le diplo avec André. Salut André.
Bonjour à tous.
On reste sur le Monde diplomatique de janvier 2020. Tu as décidé de nous parler de cet article de Serge Halimi, de Santiago à Paris, les peuples dans la rue. Réforme des retraites, corruption, coût de la vie. Est-ce déjà la troisième ou la quatrième vague de protestations de masse contre l'ordre néolibéral et ses gouvernants? De Beyrouth à Santiago, sans oublier Paris, le pouvoir politique paraît en tout cas incapable de rétablir la situation, y compris quand il recourt à la manière forte. J'ai même presque envie d'ajouter, et plus il recourt à la manière forte, moins ça devient contrôlable. C'est un truc assez connu d'ailleurs. Plus t'opprimes les gens, bizarrement, plus ils se révoltent. Plus tu crées de martyrs, plus la contestation que tu affrontes est forte.
C'est vrai, on le constate très souvent. Le fameux moment Potemkin, comme dirait Lordon. C'est-à-dire, il y a un moment où les gens peuvent plus et se soulèvent.
Tout est à nous. Rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage des richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter.
Depuis 10 ans, il y a une vague de soulèvements, d'émeutes, d'insurrections dans le monde entier. A comme Algérie, B comme Bolivie, C comme Colombie, E comme Équateur, F comme France, etc. Ajoutez le Liban, etc., la Tunisie. Il y a, depuis 10 ans, toute une vague de protestations extrêmement fortes, de contestation des systèmes, en quelque sorte. Il y a une défiance générale qui sert de ciment à ces révoltes. C'est une défiance à l'égard du libéralisme économique. Et les gens n'en peuvent plus du capitalisme. C'est pas forcément exprimé clairement, ils savent pas très bien comment ils vont en avoir la peau, ils savent pas très bien quel système peut le remplacer, mais ils en ont marre. Les nababs d'un côté, les parias de l'autre, et puis il y a aussi une défiance à l'égard de l'arrogance, la prévarication du système politique, la pourriture du système politique. la classe dominante, les fameuses élites, ont transformé la police, les forces armées en gardes prétoriennes de ces privilèges. Et les gens en ont marre des mensonges, des promesses, et en fait de l'immobilisme du système, et même de l'aggravation du système, parce que le triomphe du libéralisme économique dans le monde entier, cette mondialisation qu'on disait être heureuse, etc., qu'elle est ruisselée sur les pauvres, en réalité c'est une dégradation générale. Sur tous les fronts, tous azimuts, tous les peuples pâtissent de ce triomphe du libéralisme économique.
Du renard libre dans le poulailler libre.
Vous avez la liberté, vous êtes à l'abri du totalitarisme, etc. Ça va être une ère heureuse, la fin de l'histoire, etc. En réalité, bon, les gens ont vu ce qu'il y avait au bout, hein. Une aggravation de leurs conditions de vie, de travail, etc. À tel point que la misère devient généralisée dans certains cas, ou en tout cas envahissante.
Les hommes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas de cette société-là.
Alors ce qu'il note aussi, c'est dans ces mouvements la jeunesse, la spontanéité, l'usage des réseaux sociaux, le refus d'être récupéré, la colère née de politiques économiques presque partout destinées à éponger les dégâts provoqués par les banques. Alors non seulement ces gens jouent au Monopoly avec des sommes gigantesques, mais en plus de ça, c'est à chaque fois qu'il y a un crash, une bulle financière qui s'écrabouille ici ou là, c'est à chaque fois les peuples qui sont éclaboussés.
Me venait en tête l'exemple du Crédit Lyonnais, hein, qui a fait n'importe quoi avec le pognon qu'on lui avait confié et qui est venu au secours du Crédit Lyonnais, le contribuable. D'ailleurs, on ne lui a pas demandé son avis, hein, mais on a dû renflouer cette banque, comme d'autres. Hein.
Bien sûr, lorsqu'il y a eu le crash de 2008, la plupart des grandes banques de dépôt et d'affaires, maintenant c'est la même chose, toutes les grandes banques ont été mouillées dans cette espèce d'énorme gâchis qui a payé, évidemment, hein, en tout cas dans l'Union européenne, ce paradis des financiers. Ce sont les contribuables, ce sont les peuples qui se sont partagés la douloureuse. On trouve d'ailleurs dans tous ces mouvements de révolte les mêmes carburants, carburants de l'incendie, les crises financières qui ont profité aux principaux responsables et les grands partis traditionnels de droite et de gauche. Enfin, lorsque Halimi dit gauche, évidemment, il faudrait mettre ça entre guillemets, parce que bon, le PS, hein, vous voyez ce que ça veut dire. Ils se sont tous relayés pour imposer avec obstination des choix injustes à la population. Et bien sûr, la légitimité de ces systèmes politiques, etc., on a souffert. Et aujourd'hui, on voit ce qu'est la légitimité du système politique en France avec les gilets jaunes et les protestations sociales. Plus personne ne croit qu'il y a une démocratie et une république, un souci du bien public, etc. En fait, tous les milieux politiques sont complètement déconsidérés par ce qui s'est passé. Alors bien sûr, Halimi dit que ce n'est pas sans danger, cette démonétisation de la politique, des hommes politiques, des institutions, etc. Parce que ça peut profiter aussi aux mouvements d'extrême droite, nationalistes, populistes, qui vont travailler sur ce ressentiment et bien sûr désigner des faux coupables. C'est ça le fonctionnement de l'extrême droite, désigner des faux coupables.
Hein, du émissaire.
Voilà, et puis de prôner la nation unie, la mano en la mano, contre des épouvantails qu'on leur propose en quelque sorte. C'est ça l'extrême droite. Hein. Que volent les gens tous partout, hein, que ça soit en Tunisie, en Kabylie, vivre décemment. Vivre décemment, ne pas avoir des emplois poubelles, prolétarisation généralisée, une précarisation généralisée, la cherté de la vie, l'explosion des inégalités, car les gens voient quand même, alors les riches prennent le soin de se planquer, hein, pour vivre heureux et riches, vivons cachés, mais on voit quand même qu'il y a des fortunes gigantesques qui se sont constituées, qui de temps en temps s'écroulent, mais la plupart du temps elles sont extrêmement solides, et c'est eux qui profitent de la misère des gens. Et plus la misère augmente, plus ces gens s'enrichissent. Partout, grâce à la brutale franchise du libéralisme qui déchire le voile entre l'État et le capital, les revendications économiques se sont aussitôt doublées d'exigences politiques. Politiques. En quelque sorte, les gens se soulèvent aussi contre la corruption, les scandales. Alors là, on est en France, hein. Je vous laisse le choix dans les scandales politiques, et depuis les plus vulgaires et crapuleux jusqu'aux plus habiles, des montages financiers, etc. Les gens s'en mettent plein les poches. En gros, les hommes politiques, pour l'essentiel, en tout cas ceux qui se sont succédés au pouvoir, s'en sont mis plein les poches. Exactement comme des présidents africains, hein, une fois arrivé au pouvoir, on favorise son ethnie, sa tribu, son clan, ses copains, etc. Et on s'engraisse. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on s'engraisse.
Et là, Halimi cite en particulier ces gens qui pantouflent dans le privé, reviennent dans le public, toute cette classe dirigeante, cette énarchie pour une grande part, mais pas uniquement, hein, ces gens qui passent du privé. Regardez le gouvernement Macron d'aujourd'hui, serviteur du capital, ensuite après haut fonctionnaire, responsable du gouvernement et de l'exécutif, etc. Ces gens sont les mêmes. Est-ce qu'on peut attendre des employés des grandes banques d'affaires, Barclays, Rothschild, etc., etc. Est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là qu'ils se dévouent au bien public? Faut être con. Non, en réalité, ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en vont ensuite après avec d'énormes matelas de billets, etc. Bon, alors qu'ils ont parfois laissé le pays dans un triste état. Alors en France, bon, on voit la destruction du système de protection sociale, la ruine des hôpitaux publics, etc. Mais en Irak, c'est bien pire. Il y a plus d'eau potable, il y a plus de médicaments, il y a plus d'école. L'État s'est désagrégé. Et les milieux politiques qui ont été au pouvoir, mis au pouvoir par les Amerloques hein, et les alliés occidentaux, ces gens s'en sont mis des milliards dans la poche. On s'étonne que les gens se révoltent. Au prix d'ailleurs d'un grand danger, c'est qu'il y a une répression, hein, évidemment, parce que, comme par hasard, les gens qui sont au pouvoir ont le monopole de la violence, etc. Et ces gens s'en servent. Ils transforment les polices nationales ou les armées en mercenaires au service de leurs intérêts. Alors on les ménage, bien sûr. Regardez Macron. Il a mis soigneusement à l'abri de sa réforme des retraites les policiers. Évidemment, il va en avoir besoin pour taper sur les manifestants. C'est invraisemblable, quoi. On a une généralisation de la révolte contre la mondialisation capitaliste, l'ultralibéralisme et la façon dont il fonctionne. On peut dire, en simplifiant dans les grandes lignes, que le grand capital financier mondialisé, internationalisé, appelez-le comme vous voulez, ces fortunes gigantesques qui dominent le monde actuellement, ont dans chaque pays des relais politiques qui sont leurs valets, leurs serviteurs, qui se servent de l'appareil d'État pour maintenir ces privilèges, leur permettre bien sûr de ne pas payer d'impôts, hein. C'est généralisé, la mondialisation, c'est ce que j'expliquais à mes élèves jadis lorsque j'étais professeur de géographie. Je dis, à quoi sert la mondialisation? À ne pas payer d'impôts pour les grandes sociétés multinationales. C'est d'ailleurs un truc ancien, hein. La mondialisation dont on se gargarise parfois, ça a servi par exemple aux compagnies pétrolières de ne pas payer d'impôts. D'énormes compagnies comme ExxonMobil, etc., une grosse société pétrolière américaine, mais les autres font la même chose, hein, ont des filiales. C'est-à-dire qu'ils déclarent leurs impôts dans les pays où on n'en paye pas, ou très peu. Et au contraire, dans les pays où on paye beaucoup d'impôts, ben, ils font pas de bénéfices, donc ils payent pas de... C'est un truc que je conseille aux salariés en France, déclarer des impôts là où il n'y a pas de système fiscal, hein, et au contraire, là où il y a un système fiscal, de déclarer que vous n'avez pas de revenus, en quelque sorte, hein. Bon. Mais la mondialisation a au moins un mérite, celui de montrer à quel point les classes dirigeantes se ressemblent. Fermez les guillemets, c'est de Halimi, hein. Alors, il donne des exemples. Hein, alors, un jeune ancien banquier préside un pays. Hein, il s'agit de Macron, évidemment. Un milliardaire septuagénaire, un autre. Il s'agit des États-Unis, évidemment. Qu'est-ce qui les distingue? Bon, ils ont pas la même coiffure, mais qu'est-ce qui les fait se ressembler? Leur principale mesure favorise fiscalement les riches. Il donne d'autres exemples. François Fillon, ancien Premier ministre, artisan d'une réforme des retraites en 2010. Puis partisan du système à points pour baisser le montant des pensions. Il œuvre à présent pour la banque Barclays. Il doit certainement être un employé aux écritures ou derrière le guichet, probablement. C'est comme François Baroin, que la presse présente déjà comme un potentiel candidat de droite.
Non, non, il a fait le calcul, ça rapportera pas assez. Il gagne trop dans le privé et machin, et finalement, président de la République, ça lui ferait un énorme manque à gagner, quoi. Sans compter tous les emmerdements qui vont avec. Donc, bébé Chirac a décidé de continuer à bosser, à être président de ceci, cumuler je ne sais quoi, voilà. C'est beaucoup plus juteux. Source canard enchaîné, hein.
Je l'ai lu, moi aussi. En fait, il est employé par la Barclays et il est chargé de guider les acquéreurs étrangers dans l'Hexagone. Un conseiller pour les grands capitalistes qui veulent venir se gaver en France, en quelque sorte. Il donne d'autres exemples intéressants. José Manuel Barroso, ancien Premier ministre portugais et ancien président de la Commission européenne, a préféré une autre banque, Goldman Sachs, une banque.
Sachs.
Goldman Sachs, oui, qui est une grande banque new-yorkaise, je crois, enfin américaine.
Ils sont illustrés en jouant au Monopoly avec le pognon des gens et ils ont perdu.
Cette banque est une autre.
C'est pas eux les subprimes, hein.
Bah, ils ont été une des banques impliquées dans cette histoire-là, oui. Bah, toutes l'ont été, bien sûr. C'est du banditisme financier. Je crois que Facebook s'est offert il y a un an un ancien vice-premier ministre britannique, monsieur Nicolas Clegg, directeur des relations publiques à Facebook. Son salaire devrait atteindre 4 500 000 euros par an, 60 fois ce qu'il touchait comme parlementaire. Bon. Donc les manifestants ne sont pas des paranoïaques, on est vraiment dirigé par des bandits, par des gangsters organisés en gang et qui se soutiennent évidemment. La dernière interrogation de Halimi, c'est mais sur quel changement politique peut-on pour l'instant compter en quelque sorte? Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'offre politique ou en tout cas d'alternative politique proche de gagner en quelque sorte pour l'instant. Tout le monde, depuis 10 ans, pronostique l'écroulement de la mondialisation, du capitalisme, etc. Aujourd'hui, on voit que le capitalisme international est vomi par la plupart des gens. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Non pas comme système économique, ça, il n'y a pas de mystère. On sait ce qu'il faudrait à la place de ce système prédateur et dément. Mais soutenu par quel parti politique? Parce que bon, en France... Il y a quand même eu un effondrement de la gauche officielle, aussi bien des socialos que des communistes, un effondrement. Alors bien sûr, il y a, pour prendre la relève des gens, mais pour l'instant, ces gens ne sont pas majoritaires. Ils sont d'ailleurs victimes eux-mêmes, je parle du truc à Mélenchon, ils sont victimes d'ailleurs de la défiance généralisée des gens à l'égard du politique. Or, il va bien falloir qu'il y ait un truc. Alors, les anarchistes ou les gens proches des anarchistes sont pour se fichent complètement de la politique, de l'État, du pouvoir, etc. et de se débrouiller de... Non, c'est pas réaliste. Il faudra un jour qu'il y ait une expression politique de... Bien sûr, c'est une aspiration tout à fait légitime et je comprends parfaitement de vouloir se débarrasser de cette société en vivant un autre type de société, d'autres types de relations humaines. Et on doit avoir cette source d'inspiration permanente, c'est-à-dire ce que Marx appelait le dépérissement de l'État. Seulement, avant le dépérissement de l'État, il faut que l'État change de nature, avant de disparaître de lui-même et de laisser la société et l'humanité se gérer elle-même. Il va bien falloir, ne serait-ce que pour se débarrasser du banditisme capitaliste, il va bien falloir... prendre le pouvoir et le garder. Et c'est pas une mince affaire. Alors j'ai pas de leçons à donner ou de méthodes à donner, hein. Je pense que les gens inventeront en même temps.
Il y a des copains, quand je discute avec eux, qui ricanent quand j'ose leur dire que les riches, le capitalisme, a toujours eu des stratégies discrètes, concertées, pour garder le pouvoir. Je dis stratégie discrète, hein, parce que j'ose pas utiliser le mot complot. Or, il y a des gens qui refusent d'admettre ce truc-là, qui disent non, Hitler est rentré par hasard au Bundestag, il y avait de la lumière, il est rentré, voilà, sans l'aide des industriels allemands, hein, tout ça. Et puis, les capitalistes, improvisent au jour le jour. Ils n'ont pas de stratégie, n'est-ce pas? Bon, il y a quand même un gilet jaune qui a attiré mon attention sur un truc dont j'avais déjà entendu parler, et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire quand on cherche un renseignement. Je suis allé sur Fachopédia, sur Wikipédia. Il y a un machin qui s'appelle le groupe Bilderberg, où les représentants du capitalisme international, des multinationales les plus puissantes, ça, se réunissent une fois par an, dans un premier temps en Hollande, je crois, dans un hôtel qui s'appelle Bilderberg, aucun rapport avec les Juifs, hein, je rassure les antisémites de tout poil qui pourraient nous écouter. Et puis ce sont des réunions annuelles tenues par les maîtres de l'oligarchie financière mondiale qui adoubent les François Hollande, les Trump, les machins, etc., défilent devant ces gens-là. T'as entendu parler de ce truc-là, toi?
Oui, il y a eu des articles dans Le Monde diplomatique. C'est une réalité. Bien sûr qu'il y a des organismes de concertation de ces immenses fortunes financières. On peut pas imaginer que ces gens sont dans la nature, chacun dans leur petit pays, cultivent leur radis, etc.
Et puis, improvisent.
Non. Ces gens voient loin. Ils ont toujours un coup d'avance sur nous. C'est rare quand ils se laissent surprendre. ils se sont fait surprendre déjà deux, trois fois et ça les met en rage. Et surtout, les intérêts sont tellement énormes que vous vous rendez bien compte que on prend des précautions pour garder le business, garder le pognon, touche pas au Grisby. Et ces gens se concertent, bien sûr. Ils ont des stratégies qui sont maintenant des stratégies mondiales, bien sûr. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas visibles. On met Davos devant, qui est une sorte de décor, mais derrière Davos, c'est-à-dire la réunion des grands gouvernements, il y a le vrai gouvernement du monde. Le gouvernement du monde, c'est le grand capital. S'il n'y avait pas cette concertation, ça voudrait dire que le monde est transparent et démocratique. Bon, il n'est ni transparent, ni démocratique. Il est oligarchique. Et l'oligarchie au pouvoir, c'est un peu comme les syndicats de gangsters américains. Vous vous rendez bien compte, il n'y avait pas un compte-rendu de séance qui était publié dans le journal officiel. C'est oral, c'est tacite, on s'entend et on se répartit les tâches. Effectivement, on désigne les gens. On peut penser qu'un Macron, même au niveau français, a été désigné par le plus haut niveau du grand capital français.
J'ai un copain qui dit que Macron, c'est la poupée gonflable du capitalisme.
Je vous prie de m'excuser, j'ai du mal à rire sur ces gens-là. Je les trouve sinistres, moi. Et je les trouve insolents. Je citerai un petit article de Lordon sur le moment Potemkin. À quel moment les gens en ont eu marre et se sont révoltés? Lordon, homme spirituel,
économiste,
à un moment donné, les gens qui nous gouvernent en France ont eu des paroles « trop c'est trop » en quelque sorte. Ça a été le moment Potemkin, le moment où vraiment les gens en ont eu marre, à un moment où les gens du gouvernement et Macron ont conchié le discours, comme il dit, c'est-à-dire couvert de merde en quelque sorte, conchié l'histoire politique. Et c'est la marque de ce gouvernement pour Lordon, c'est un gouvernement de conchieurs. Quand Attal et Montchalin osent dire que le suicide d'Anas, cet étudiant, n'est pas politique, il conchit son lit de douleur et peut-être sa tombe. Il donne d'autres exemples. Buzyn ferme des lits, ouvrez les guillemets, pour améliorer la qualité des soins, fermez les guillemets.
Édouard Philippe, quand il a annoncé la soi-disant réforme des retraites, a invoqué l'esprit des ordonnances de 45, le Conseil national de la résistance, et a dit que c'était une conquête sociale, notamment pour les femmes.
C'est incroyable, quoi. Vidal décuple les frais d'inscription des étudiants étrangers, ouvrez les guillemets, pour mieux les accueillir. Pénicaud défait le code du travail pour protéger les salariés. Il est vrai que El Khomri avait commencé le boulot, mais enfin, quand même, c'est invraisemblable, quoi. Ces gens, ils évoquent la libération, l'énorme œuvre sociale de la libération, pour détruire. C'est quand même incroyable. Je crois que c'était Sarkozy qui avait utilisé Guy Môquet dans ses discours extraordinaires. Guy Môquet était un jeune de 16 ans, c'était le jeune communiste, fils d'un député communiste de la région parisienne, etc. Et il a été arrêté dans une fournée de responsables communistes et de responsables CGT, et il a été fusillé, martyr de son combat. Et qu'un type comme Sarkozy, héritier du patronat français et de la bourgeoisie française, qui a collaboré avec les Allemands, qui a livré les communistes et les syndicalistes aux nazis, qui viennent invoquer Guy Môquet, je me suis senti insulté, conchié par ces salauds-là, franchement. Comme Macron qui dit, il suffit de traverser le trottoir, etc., bande de feignasses. Et à un moment donné, non mais attends.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Ces trucs par l'éducation, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est correctif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins.
Les gens aussi, c'est très symbolique peut-être, mais je pense qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire.
Tu as mentionné Pénicaud, qu'on a commis quand même une belle avec l'histoire de congé, de deuil, de parents qui ont perdu un enfant. Alors, il y avait déjà le coût des retraites que les gens ont du mal à digérer, parce qu'on a vu des tas de gens dans les manifs là qu'on n'y voyait pas avant. Donc la Macronie a poussé le bouchon un peu loin. Mais là, Pénicaud a commis l'outrage de trop en insultant des parents endeuillés ou potentiellement endeuillés. Pénicaud, cette femme est de toute évidence bête et n'a pas de cœur. Ces gens n'ont pas de cœur. Je ne sais pas si on peut parler de point Goldwyn ou Lordon parle de point Potemkin, mais là, il me semble que l'énorme saloperie de Pénicaud sur cette histoire de deuil a énormément choqué. La roue de l'indignation a encore tourné d'un cran avec ce truc-là. Il y a des gouttes d'eau, tu sais pas laquelle fera déborder le vase. Mais là, Pénicaud, elle a fait fort. Hein. Même Macron, je crois, était obligé de lui taper sur les doigts.
Oui, parce qu'en fait, ça se voyait.
Faut-il être bête et méchant pour dire des choses pareilles,
quoi. Non, faut être DRH. Ces gens qui souvent viennent des entreprises, ont été en charge du personnel d'entreprise, etc. Regarde ce qui se passe avec le managing à l'américaine depuis une vingtaine, trentaine d'années, etc. Le travail devient tellement odieux, tellement pénible, le harcèlement est tel que des gens se suicident à cause de leurs conditions de travail. La seule chose qui faisait tenir les gens, c'était la retraite. Et là, on retouche à la retraite. Mais en fait, il y a des gens qui souffrent au travail. Je pense qu'effectivement, c'est une mentalité de garde-chiourme au service des actionnaires. Il s'agit de faire suer le burnou, quoi. Comme ces gens dans les plantations qui tapaient sur le dos des nègres.
Ce qui me stupéfie, c'est qu'ils fassent sans aucune habileté. Ils pourraient s'y prendre mieux que ça. Enfin, ces gens ont des milliards, ils peuvent quand même se payer des conseillers de communication corrects, quoi. Enfin, je veux dire, chier à la gueule des gens comme ça, c'était évident que ça allait créer un scandale.
Même les conseillers en com partagent un peu ces... Je pense que c'est parce que le gouvernement de Macron est constitué de gens qui ne venaient pas de la politique. Parce que la politique finit par, en quelque sorte, instruire les gens qui en font de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'il est imprudent de faire, etc. Là, ces gens-là, non, ils sont bruts de couler. Hein,
parce qu'une culture, et notamment pas de culture politique, hein, la plupart, effectivement, viennent de la société civile, enfin, des entreprises.
Bien sûr.
Ce sont des ignares en politique.
Oui.
D'ailleurs, la presse très complaisante à leur égard a d'ailleurs souvent montré que ces gens, les Macron et compagnie, n'avaient aucune culture de l'État, ils savent même pas comment ça marche. Ils connaissent pas nos institutions.
Oui, mais ça, t'inquiète pas. En revanche, ils ont des conseillers juridiques, constitutionnalistes, etc., qui leur donnent des conseils là-dessus. Mais pour le savoir-faire, pour savoir enfumer les gens, bah, la vieille droite traditionnelle était plus habile qu'eux. Ça veut pas dire qu'ils étaient meilleurs. Ça veut dire qu'ils étaient plus habiles qu'eux. Il y avait aussi encore plus habile, c'était la social-démocratie. Comment entuber les travailleurs, mais avec de la vaseline, en quelque sorte. Eux, il n'y a pas de vaseline.
Mon ennemi, c'est la finance, et pan, je te baise le code du travail.
Voilà, c'est des... Puis ils étaient socialistes, donc forcément, ils étaient pour le peuple et pour les travailleurs, puisqu'ils étaient socialistes, ou le genre d'évidence à la con, quoi. Tandis que là, ils sont à poil, les macroniens. On sait que c'est des gens qui viennent, alors, entre guillemets, de la société civile. En fait, ils viennent des banques et des conseils d'administration de sociétés. Hein. Ce sont pas des... Je parle de l'exécutif. Quant au législatif, alors, ils viennent de n'importe où. Ils ont pris carriéristes, opportunistes, des anciens socialos qui continuaient à aller à l'abreuvoir, au râtelier et tout.
Des coachs qui avaient des soi-disant boîtes de développement personnel.
T'es consterné, même dans leur camp. Ils comprennent pas ce qu'on leur dit, quels sont...
Ils savent pas parler non plus. T'as déjà entendu Pénicaud à la radio? On dirait du polémix brut, quoi. À part que on n'a pas remonté le discours. C'est affligeant à la source, quoi. Ces gens savent même pas parler le français. D'ailleurs, je me suis eu un débat hier avec une copine qui a ressassé le truc. Tu sais, il y a des machins qu'on met dans la tête des gens. Hollande était mou. Bah, je dis non, je suis désolé, si vous continuez à croire ça, c'est que vous êtes bête, vous avez pas compris qu'Hollande a été très dur. Puis les médias nous ont vendu un truc que Macron est brillant. Mais moi, je le trouve tâcheron. Encore Macron, il sait un peu mieux parler le français que ses ministres. Ils sont médiocres, quoi.
Ce sont pas des gens brillants. Évidemment, on a tendance à... Enfin, moi qui suis assez âgé, à regretter les gens qui avaient fait une agrégation de lettres ou de poésie.
Comme Pompidou.
Herriot, Pompidou, Edgar Faure, etc., qui étaient des intellectuels assez brillants. Et en tout cas, des gens qui avaient une intelligence, un esprit... qui n'existe pas dans l'exécutif d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on a du mal à trouver. Alors, ils ont trouvé un mathématicien, quand même, avec un bon nœud de cravate.
Il est con comme ses pieds, hein.
Oui, c'est très médiocre politique. C'est nul, quoi. C'est nul. Nous sommes non seulement dirigés par des gangsters, mais en plus, sur des gangsters barbares et incultes. C'est insultant, quoi. Un peuple dirigé par des ânes. Des ânes qui nous tapent dessus à coups de nerf de bœuf, quoi.
Je trouve ça très insultant pour les ânes, ce que tu dis. Qui est un animal remarquablement intelligent, c'est pas sympa.
Je retire ce que j'ai dit sur les ânes, qui est un animal sympathique, intelligent, travailleur, etc. Et pas obstiné, comme on le dit souvent, etc. C'est un animal très estimable.
Une moule, c'est pas très intelligent. On peut dire qu'ils sont bêtes comme des moules.
Ils ont même pas le bagout des représentants de commerce. J'ai vu des vendeurs de voitures et des vendeurs d'assurance beaucoup plus spirituels qu'eux, hein. C'est certain. C'est très très bas comme niveau.
Assez de cadeaux pour la France d'en haut. Assez de coups bas pour la France d'en bas. Assez de cadeaux
Salut Cédric.
Ah, salut.
Retour sur le monde diplomatique de janvier 2020. Dossier, retraite, la réforme de trop. La couleur politique ne fait rien à l'affaire. Les gouvernements successifs enchaînent les réformes des retraites, aggravant les régressions au point d'ouvrir toujours plus la porte aux fonds de pension. Il serait temps de reconsidérer complètement ce moment particulier de la vie et de repenser l'ensemble de la carrière en apportant par exemple un salaire de base aux étudiants. En attendant, les salariés, dont le malaise au travail va grandissant, ne veulent pas reculer l'âge de leur départ, ni laisser leurs enfants sans droit. Ce rejet de l'individualisme suscite des manifestations durement réprimées qui entrent en résonance avec d'autres mobilisations dans le monde. Cet article, « Briser le collectif », signé Martine Bullard.
Un article qui présente une analyse très pertinente de la logorée et de l'idéologie sous-jacente de la com gouvernementale. Toutes les outils de com qu'utilise le gouvernement pour faire passer ces soi-disant réformes voulues effectivement par l'oligarchie financière et les sbires politiques qu'ils sont. Elle commence l'article sur l'idée que on est face à une vision technocratique qui s'appuie sur les totems mathématiques. On a connu le fameux 3% de déficit public du traité de Maastricht. Maintenant, on a le 14% du PIB consacré aux retraites. Alors, 3, 14, pourquoi pas 2, 15 ou 14, 18, enfin, j'en sais rien. Et donc, l'honnête Delevoye, hein, qui effectivement n'avait rien à se reprocher, et on en reparlera avec BlackRock, a précisé que 14%, c'était la ligne rouge. Il ne faut pas franchir 14%. Pourquoi 14%? Alors, s'ils ont trouvé un argument, c'est qu'en Allemagne, la part du PIB consacrée aux retraites est de 10,1%. Alors, comme en France, les technocrates au service de l'oligarchie financière sont incapables de penser français, mais pensent comme des boches, comme en 1970 ou en 1940, par exemple, ou comme des ricains, ils ont décidé que, bah voilà, 10 chez les Allemands, nous, ça peut pas être plus de 14. On oublie juste de dire un truc. C'est qu'en Allemagne, il y a 18,5% des retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 7,9% en France. Ça pose quand même un petit problème, cette histoire de la deadline des 14%. De façon mécanique, on sait que le nombre de retraités va augmenter. Aujourd'hui, il y en a 16,1 millions. En 2035, il y en aura 18,6 millions, sauf si le coronavirus continue de faire des ravages. Mais mécaniquement, si vous consacrez une part de 14% de PIB avec une croissance économique très molle comme on connaît actuellement, ça veut dire que la part de chacun va forcément se réduire. Alors, il n'y a pas...
Photo.
Ma grand-mère disait, il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit. Il n'y a pas photo. Ça va passer soit par le fait de retarder le départ de l'âge à la retraite, dont on a montré effectivement l'absurdité absolue vu les taux d'activité des plus de 60 ans en France et ailleurs, et de réduire le taux, ou bien, autre possibilité, réduire le taux de remplacement du salaire touché. Donc dans les deux cas, ça va se solder par une baisse considérable des revenus des retraités. D'ailleurs, le COR, Conseil d'orientation des retraites, a dit dans son dernier rapport « La pension moyenne de l'ensemble des retraités rapportée aux revenus d'activité moyens va décroître. Elle représentait aux alentours de 49,8% du revenu moyen en 2025 contre 52,4% en 2018. » Donc la baisse sera encore plus prononcée dans les années qui suivent.
On dit beaucoup sur les chaînes de radio et de télévision, et même, je crois, certains représentants du gouvernement, que les Français ne comprennent pas la réforme des retraites.
Oui, mais de pédagogie.
Oui, oui. Mais je crois qu'ils ont justement très bien compris. Si, si, on a compris, et on vous comprend très bien, messieurs et messeigneurs.
Emmanuel Macron n'est pas le premier à s'attaquer sérieusement à cette question des retraites. Effectivement, depuis 30 ans, les différents gouvernements qui se sont succédés, depuis le gauchiste Michel Rocard, en passant par les Juppé, les Balladur, ont multiplié les réformes, Macron étant la 8e réforme depuis 30 ans. Alors, ces réformes, effectivement, n'ont pas abouti jusque-là à un rééquilibrage des caisses de retraite, ce qui est toujours l'objectif affiché. Et Macron, quelle est sa nouveauté? Il veut aller plus loin que cette politique, je cite Emmanuel Macron, des petits pas fait jusque-là. Lui parle de réforme structurelle qui sauvera le régime systémique, copernicienne, une réforme copernicienne, tout ça. Et donc, il va sauver les retraites par répartition.
Chers amis, nous sommes au bord de l'abîme, il est temps de faire un grand pas en avant.
Et donc, pour masquer l'iniquité et les injustices de ces pseudo-réformes d'Emmanuel Macron, on met des écrans de fumée de com. Cette mesure d'Emmanuel Macron vise à l'universalité contre les privilèges. Si bien que Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui avait avoué qu'elle n'hésiterait pas à mentir pour protéger le président, a qualifié cette réforme de gauche. Parce qu'effectivement, elle viserait à l'universalité contre les privilégiés.
Tu crois que c'est un mensonge ?
Édouard Philippe l'a dit aussi, il en a appelé aux ordonnances de 45, au Conseil national de la résistance. Édouard Philippe aussi a dit que c'était une conquête sociale que de casser la retraite des gens.
Donc mentir et hontément, droit dans les yeux, ça marche bien.
Mais c'est une conquête sociale des patrons.
Deuxième écran de fumée, opposer les précaires qui ont un emploi partiel, voire très partiel, qui ont des contrats courts. Il faut rappeler qu'effectivement, il faut 154 heures de travail pour valider un trimestre. Donc opposer ces précaires aux gens qui disposent de statut comme ces salauds de fonctionnaires. Alors, il y a cependant un petit problème dans cet écran de fumée, c'est que pour calculer la retraite, maintenant, ça va se faire sur toute la carrière et non plus les 25 dernières années, comme c'était le cas depuis les dernières réformes. Alors, ce qui est particulièrement pénalisant pour les gens ayant eu des carrières hachées ou marquées par des périodes de précarité ou de chômage ou d'arrêt pour cause d'enfants. Grande perdante, les femmes. Et là, boum, re-écran de fumée, 5% pour toutes les femmes, etc. Sauf que plusieurs instituts ont fait des calculs, la quasi-totalité des femmes sont perdantes dans l'histoire.
Toutes perdantes, je suis sûr que Pénicaud va rien perdre. Hein.
Elle n'a pas eu d'enfant.
Elle va pas faire un élevage, quoi. Avec de l'eau.
Alors, troisième écran de fumée, la promesse de 1000 euros pour tous. Soit 85% du SMIC. Belle promesse. Sauf que c'est un dispositif qui existe déjà. Il a été institué en 2003. Sauf qu'il a été jamais appliqué. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent.
1000 euros pour tout le monde, enfin, etc. Qui ont une carrière complète. Tout le problème est là. Carrière complète. Plancher, vous avez 4 heures.
Philippe, les 1000 euros qui représentent 41 euros de moins que ce qui est considéré comme le seuil de pauvreté fixé à 1041 euros.
Quatrième écran de fumée. Pour avoir une carrière complète et toucher donc ces fameux 1000 euros. Le problème, c'est que l'âge butoir est passé de 62 à 64 ans. Alors, par un miracle de la logorée, l'âge butoir est devenu un âge d'équilibre. C'est vrai que butoir, ça fait, voilà, équilibre, ça fait beaucoup plus joli. Donc on voit comment la transformation de la langue permet de faire passer des contenus très durs.
Âge d'équilibre. Équilibre de qui ? Équilibre de quoi ?
En tout cas, ce qui est prévu, c'est que si vous arrêtez à 63 ans, ça fait moins 5%. Si vous arrêtez à 62 ans, c'est-à-dire l'âge actuel, c'est moins 10%. Soit 150 euros pour une retraite de 1472 euros, qui est la retraite moyenne en France. Très clairement, le but est de briser le collectif, d'atomiser la société pour empêcher effectivement des luttes collectives et massives. La privatisation deviendrait indispensable pour bon nombre de gens pour compléter leur retraite, mais attention, seulement pour ceux qui en auraient les moyens, laissant dans la précarité les plus faibles. La même chose a été faite en matière de santé, où l'on voit effectivement comment le rôle de la sécurité sociale a reculé au profit de mutuelles, pour ceux qui ont les moyens de se payer une mutuelle de bonne gamme. Là, on a appris que les mutuelles allaient augmenter entre 5 à 12% cette année, parce qu'effectivement, il y a des restes à charge qui ont augmenté. Et donc, on voit apparaître des mutuelles low cost, qui effectivement ne couvrent quasiment rien, si ce n'est vraiment les gros pépins. Mais sinon, pour les dents, les lunettes, etc., ça ne couvre rien, toutes les choses dont on a besoin, notamment une population de plus en plus âgée. On retrouve les sans-dents. On retrouve la même chose pour les contrats de travail. Effectivement, la réforme du code du travail, avec l'approbation de la CFDT, s'est réduite au profit de contrats de travail individuels qui peuvent être modifiés par de simples accords d'entreprise et qui désormais sont plus importants que les accords de branche. Et donc là, on voit comment, effectivement, destruction du droit du travail, destruction du système de santé, destruction du système de retraite, destruction du système éducatif. On a une œuvre cohérente de destruction de tous les héritages qui ont fait la France contemporaine. Et donc ces gens-là ne sont que des fauteurs de guerre civile qui jouent le tous contre le tous au profit d'une oligarchie pourrie dont il convient de se débarrasser au plus vite.
Sur le deuil, c'est quelque chose qui est assez révélateur, notamment du prétexte ou de l'excuse qui avait été donnée au départ par les députés de LREM. Allonger la période de deuil pour les parents, c'est pénaliser les entreprises. Oui, oui. Quand on se rend compte de la chose atroce de perdre un enfant, et quand on se représente que ce qu'ils mettent en balance, perdre 5 jours pour une entreprise, c'est quelque chose qui est au-delà même de l'indécence.
J'aime pas tellement dire que les gens sont méchants, parce que souvent ça veut rien dire, gentil, méchant. Mais en fait, là, en l'occurrence, je trouve ça bête et méchant.
D'autant plus que le raisonnement est d'une stupidité sans nom. Immédiatement, dans les heures qui ont suivi, le MEDEF, moins con, est monté au grenier pour les... Tout ça, moi, ça coûte rien. Par chance, la mortalité des enfants de salariés est ultra, ultra, ultra marginale.
C'est surtout les parents qui meurent au travail.
Voilà, voilà. C'est exactement. Une chance que Pénicaud et consorts n'aient pas dit, si les congés de deuil parentaux sont allongés, ça va faire augmenter la mortalité infantile.
Mais vous êtes con, faire de la pédagogie, merde.
Faire de la pédagogie.
Ben oui, parce que les parents vont en profiter pour laisser mourir leurs enfants pour avoir des congés.
Quelle horreur.
Eh oui, voire à les tuer. Mais ces gens-là sont à tuer, c'est eux qui sont à tuer. Voilà, voilà.
On dit que le diable gît dans les détails. Et effectivement, on peut avoir quelquefois des mots, propositions de loi ou certains comportements qui, à eux seuls, révèlent complètement, comme un lapsus, révèlent la pensée profonde des gens beaucoup plus qu'un très long discours.
Mais c'est vraiment le cas, là. On est dans le cas révélateur. Hein. C'est, ce qui importe, c'est le profit, la mort des personnes, des enfants en l'occurrence, et c'est un détail. Mais vous avez remarqué que très souvent, dans le langage de ces personnes, ils sont toujours prêts à défendre les biens et les personnes. Vous avez vu l'ordre des choses, les biens et les personnes. No comment.
Liberté, égalité, propriété. La suite de l'émission aura une tonalité à la fois sarcastique et pointilleuse avec la chronique remarque sur les médias de l'ami Philippe Arnaud qui va une fois de plus vous rappeler combien les médias de service public, enfin supposés être de service public, payés donc par le contribuable, combien ces médias publics sont contre le peuple qui les finance et au service de l'oligarchie financière. Et ils osent appeler ça de l'information. On va en rigoler jaune dans un instant.
Rouler les Français dans la farine, les faire bouillir, pour voir si la colère d'origine peut revenir. Est-ce qu'on peut attendre que ça ruisselle infiniment? L'état de grâce n'est pas éternel. Non, non. Retour à la grève générale, au blocage, vive la sociale. Le peuple va épouser la rue. Tout n'est pas perdu. Rouler les Français dans la farine, les faire bouillir.
Salut Philippe.
Bonjour.
Remarque sur les médias du 18 janvier 2020.
Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
Le samedi 18 janvier, le journal de France 2 de 20h traitait de 12 sujets. 7 de ces sujets étaient des sujets d'actualité. Emmanuel Macron, une soirée au théâtre perturbée.
C'est sa prof de français qui l'a forcé.
Deuxième sujet, opération coup de poing, une nouvelle forme de revendication. Troisième sujet, grève à la RATP, le bout du tunnel. Quatrième sujet, gilets jaunes, une fin de manifestation mouvementée. Cinquième sujet, éducation, les premières épreuves du nouveau bac reportées. Sixième sujet, incendie en Australie, quels facteurs déclenchent les incendies en série? Septième sujet, Californie, la ville de Paradise, théâtre d'un incendie dévastateur, se prépare à l'été. Les cinq autres sujets étaient des sujets anecdotiques ou, entre guillemets, tendances, du type de ceux qui font l'ordinaire des journaux télévisés de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Je cite les trois premiers car c'est aux deux autres que je consacrerai mes observations.
Ces admirables artisans des montagnes qui font des santons en crotte de nez.
Alors, premier sujet, tendance. Tendance, louer ses meubles, une solution commode. Deuxième sujet, fabriquer en France des produits plébiscités. Troisième sujet, musique, ils reprennent leur groupe favori. Les deux autres sujets restants avaient pour titre Meghan et Harry, ils renoncent à leurs titres royaux, et grand format, Saint-Pétersbourg dans le tourbillon des balles russes.
Philippe, permets-moi de t'interrompre, mais excuse-moi, le 18 janvier 2020, mais il n'y avait pas un mouvement social contre la réforme des retraites à ce moment-là, non mais...
J'y arrive. Remarque 1. Aucun des sujets possibles de politique étrangère, par exemple guerre civile en Libye, manifestation au Liban, tension Iran-États-Unis et toute relation extérieure de l'Iran, Brexit, etc., n'a été traité. Alors que c'est plutôt le cas dans le journal du soir, contrairement à celui de 13h. Je remarque ceci, les journaux de 13h de France 2 ne traitent, pour ainsi dire, jamais de politique extérieure. Il faut vraiment qu'il y ait une bombe atomique ou quelque chose comme ça pour qu'ils en traitent. Et je n'évoque même pas les sujets structurels qui peuvent à tout moment fournir de solides sujets. L'Amérique latine et au sein de celle-ci le Chili et le Venezuela, la Corée du Nord, Hong Kong, l'Irak. Remarque 2. À cet égard, les deux sujets ayant pour siège des pays étrangers, l'Australie et la Californie, sont moins à ranger sous la rubrique de la politique étrangère que sous celle des catastrophes, vieille, très vieille rubrique, remontant aux gazettes d'anciens régimes, friandes du spectaculaire, de l'inhabituel, de l'effrayant et de l'horrible, et a suscité chez les téléspectateurs la peu charitable pensée du suave Marie Magno turbantibus equora ventis. Ça veut dire qu'il est doux de se trouver sur le rivage, bien au chaud et bien au sec, quand on voit devant soi l'océan se déchaîner.
Oh, un moment de poésie.
Il n'y a qu'un très lointain rapport avec cette joie mauvaise dont tu parlais dans une précédente chronique, comme on dit en allemand, la joie...
Schadenfreude. Schadenfreude.
On se réjouit secrètement du malheur des autres.
Remarque 3. Ces deux sujets, Meghan et Harry, et les balles de Saint-Pétersbourg témoignent d'une fascination à tous égards déplacée pour l'ancien régime. Qui est en effet ce prince, entre guillemets, Harry, qui s'appelle en fait Henri? C'est le second fils de Charles, prince de Galles, actuel héritier de la couronne. Le prince Henri, dans le protocole, est le sixième dans l'ordre de succession au trône, après son frère aîné William et les trois enfants de celui-ci. Autant dire qu'il ne s'appellera jamais Henri IX. Or, la reine, sa grand-mère, n'ayant déjà aucun pouvoir, il n'est donc, pour filer la métaphore, que la sixième roue du carrosse, et même pas la roue de secours. Et le fait que le journal télévisé ne le nomme familièrement que par son diminutif, Harry, témoigne de son statut effectif aux yeux des médias, celui d'une espèce de vedette, d'un Beckham, mais d'un Beckham sans ballon. Mais dans les 1 minute 39 secondes du reportage, on entend deux fois monarchie, une fois prince, deux fois altesse royale, quatre fois reine, une fois duc et duchesse, une fois titre royal et une fois famille royale.
Ça rappelle le bon temps, hein ?
Point de vue et image du monstre.
Même si c'est pour parler d'une dissension dans la famille royale, il n'en reste pas moins que le journal parle de cette famille. Wow. Et qu'en en parlant, il met l'information au même niveau que les luttes sociales qui agitent la France. Et que ce que retient l'oreille, tout autant que le fond de l'affaire, c'est la suite de ces noms protocolaires qui appellent la révérence. Or, cette litanie de titres, complaisamment énumérée, tranche de façon assez déplaisante avec la façon plutôt péjorative, voire hostile, dont, quelques minutes plus tôt, ont été présentées les grèves, les grévistes et leurs actions. Remarque 4. Le reportage sur les balles de Saint-Pétersbourg dure 4 minutes 22 secondes. C'est un temps considérable pour un sujet de journal télévisé. Par exemple, le reportage sur les opérations coup de poing dure 2 minutes 8 secondes. Sur la perturbation du bac, 1 minute 52 secondes. Et même sur la fin des grèves, qui in petto réjouit Laurent Delahousse, seulement 1 minute 8 secondes. Le reportage a duré largement plus de deux fois plus de temps que le plus long des sujets consacrés aux luttes sociales, au cours desquels pas une seule fois n'ont été présentés, ni même évoqués, les arguments des opposants à la réforme des retraites.
Tu veux dire les preneurs d'otages ?
Voilà. Oui. Remarque 5. Le reportage sur les balles à Saint-Pétersbourg s'ouvre par une vue aérienne
ça t'a plu, hein ?
Du palais impérial et sur une musique de valse. Et cette vue, ainsi que cette musique, ne sont pas fortuites. Elles sont là pour susciter, à moins de 3 semaines du Nouvel An, un rappel tout frais avec le concert du même nom à Vienne, au cours duquel se produisent des danseurs qui valsent, et où on ne manque pas de présenter des vues aériennes de la capitale autrichienne, avec ses palais de la Hofburg, de Schönbrunn ou du Belvédère. Et le rappel indirect de cette monarchie renforce l'impression de, entre guillemets, retour béni, fermez les guillemets, à l'ancien régime, lorsqu'il y avait encore dans les grands pays européens, en Allemagne, en Russie, en Autriche-Hongrie, les successeurs des monarques qui terrassèrent la France de l'Empire, c'est-à-dire aussi, et c'est-à-dire surtout, celle de la Révolution, et qui, en 1848-1849, écrasèrent les révolutions d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, de Bohême et d'Italie.
Attends Philippe, si je t'écoute, regardez Sissi l'impératrice, même 14 fois, c'est un acte anti-révolutionnaire tout en fait.
Ah, ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est con.
Remarque 6. De même que dans le reportage sur la famille d'Angleterre, on entend ici des mots repères, des mots fétiches. Par exemple, Romanov, tsar, tradition retrouvée, impérial, marbre, dont le journaliste signale, admiratif, qu'il y en a 17 sortes qui ornent les murs de la salle de bal. On écoute princesse, débutante, privilégiée, authentique, noble pétersbourgeois, prononcé avec le même tremblé dans la voix que l'expression « or 24 carats ». Une ville qui vibre de nouveau, etc., etc. Les 74 ans de l'époque soviétique passent à la trappe. Sauf pour rappeler, incidemment, que ces balles étaient passées de mode, sic, à cette époque, comme si ladite période soviétique ne s'était traduite que par une transformation vestimentaire ou capillaire, à l'instar des pantalons pattes d'ef ou des coiffures choucroute, on ne rappelle même plus que la ville, durant 7 décennies, s'est appelée Leningrad et a soutenu un des plus longs et des plus meurtriers sièges de l'histoire. Remarque 7. Une impression désagréable est donnée par l'allure des filles, souvent très jeunes, petites, à peine pubères, celle qui est donnée en exemple à 13 ans, allure qui rappelle fâcheusement les concours de Minimis des États-Unis, où les mères affublent leurs enfants de tenues d'adultes, y compris de string pour des fillettes de moins de 10 ans. On discerne ici le même esprit que dans les rallyes, ou les balles des débutantes, lorsque les parents de l'hyperbourgeoisie cherchent à habituer leurs rejetons, garçons et fille, à fréquenter la meilleure société, à y nouer le maximum de relations et à s'y marier. Et donc, à renforcer, par ces liens croisés, la cohésion des classes dominantes. Remarque 8. Ce qui m'a le plus atterré est la réflexion, une réflexion de la jeune fille. La vraie chose qui me stresse, dit-elle, c'est la fatigue, parce que le bal dure 5 heures. À ce moment, je me suis remémoré le refus d'Emmanuel Macron d'associer la notion de pénibilité à celle de travail, parce que, selon lui, cela impliquerait que le travail est une douleur, ce qu'à ses yeux, il n'est pas. Ce que seront sans doute ravis d'apprendre les salariés exposés à des postures pénibles, au port de charges lourdes, aux vibrations mécaniques et aux produits chimiques, et qui devront endurer cela jusqu'à 64 ans, ce qui est autrement fatigant que 5 heures de bal pour une adolescente de 13 ans. Elle est loin, la ville de la Révolution d'octobre.
Alors dis donc Philippe, ça c'est le journal de France 2, donc c'est une chaîne de télévision qui est payée avec l'argent du contribuable sur l'art de Vincent. Donc en fait on paye des infos pour être informé de la sorte. Donc on rappelle, tous ces sujets ont eu lieu au cœur d'un mouvement social qui est toujours en cours au moment où on se parle aujourd'hui. Voilà, c'est financé avec nos sous, cette soi-disant information, c'est formidable.
C'est quelque chose qui, sur le journal, un journal fait dans les 35 minutes, a duré près de 7 minutes, ce qui est une durée véritablement considérable. Et en pensant que là-dedans, lorsqu'il était question des grèves, à aucun moment n'ont été évoqués les contre-arguments des opposants à la réforme des retraites, que aujourd'hui on commence un petit peu à écouter, parce que petit à petit, bon, on le fait au compte-gouttes, parce qu'autrement ça serait ravageur pour le gouvernement, de dire par exemple, quel sens cela a-t-il de prolonger l'âge de la durée d'activité, alors qu'à partir de la cinquantaine, on dit aux salariés dans le privé, eh ben écoutez, vous pouvez partir, on n'a plus besoin de vous. Et j'écoutais ce matin une femme qui disait qu'à 50 ans, elle était licenciée, et lorsqu'elle a voulu reprendre un travail, elle s'est présentée au recruteur. La première question que le recruteur lui a posé, quel est votre âge? Lorsqu'elle a eu dit 50 ans, le gars s'est levé, il a dit l'entretien est terminé. Quel sens cela a-t-il de prolonger l'âge jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans, alors que l'on sait que plus de la moitié des gens qui arrivent à 64 ans ne sont plus en activité depuis des années? Et des absurdités de ce genre, des contradictions criantes dans ce projet de loi de retraite, il y en a à l'appel. Au lieu de calculer la retraite sur les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, on va prendre sur toute la carrière. Et des exemples comme ça, on peut en dresser des volumes, comme les mémoires de Saint-Simon.
Ce que je voulais pointer, Philippe, c'est que des médias de droite, que des médias privés, rappelons qu'ils sont en France possédés par 9 milliardaires. Le Monde diplomatique a fait d'ailleurs une excellente carte intitulée « Médias français, qu'est-ce qui appartient à qui ?» Bon, mais là, on parle de médias qui sont censés être de service public, que ce soit France Télévisions ou France Inter. Donc, ces preneurs d'otages, là, ces vilains français qui manifestent, sont les gens qui payent les salaires de ces soi-disant journalistes. Ce serait peut-être bien que les journalistes se rendent compte qu'ils crachent à la gueule des gens qui payent leur salaire.
Tout est dit.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette spéciale Diplomanif que vous pouvez réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
www.radio-g.fr.